Bord. Des coups de feu ce matin contre la mairie de Calvi en Haute-Corse. 11 douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place ainsi que des inscriptions sur les murs. L'une à la gloire du FLNC, l'autre appelant Nicolas Sarkozy à démissionner. Malgré ces inscriptions, l'attentat n'a pas été revendiqué. L'économie européenne se porte bien. La croissance économique dans la zone euro n'a jamais été aussi forte au deuxième trimestre depuis 6 ans. L'indice Eurostat indique 0,9%, soit une croissance cette année de 2,4% pour la zone euro. Et en parlant de croissance, la bourse, le CAC 40, est en légère hausse. Vincent Bezot.
Oui, Bilal, le marché parisien qui avait abandonné 1,10% la semaine dernière campe dans le vert depuis le début de séance. Le CAC 40 s'adjuge 0,93% à 5031 points. Une hausse qui mérite toutefois d'être relativisée au vu des volumes de transactions puisque seuls 1100 millions d'euros ont été pour le moment négociés. C'est bien faible. Mais ce n'est pas une surprise, les séances autour du 15 août étant traditionnellement parmi les moins animées de l'année. En Europe, la tendance est également favorable. Euro First 80 s'adjuge 0,77%. Sur le marché des devises, l'euro s'établit à 1,2715 $, alors que, vous nous l'avez dit, le PIB a progressé plus rapidement que prévu ces derniers mois dans la zone euro. Sur le marché de l'or, à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 628 $. Et le CAC 40 progresse maintenant de 0,94% à 5032 points. À la Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Les courses, voici la liste des chevaux les plus joués pour le Quintet Plus de Clairefontaine. Le 3, le 5, le 10, le 15, le 2, le 4, le 11 et le 6. France Inter, il est 14h et presque 4 minutes. Vous retrouvez Vladimir Cagnolari et Solo Soro, c'est l'Afrique enchantée.
Merci Bilal Tarabé, on vous retrouve dans une heure pour les infos, si toutefois on arrive à traverser la forêt.
Équipe, vous êtes prêts?
Oui.
Tout de suite, nous allons en patrouille. Faut bien observer en marchant.
Ok.
Départ. Marchez lentement en écoutant. Ce que vous voyez, ça c'est une trace. Marchez lentement, lentement.
Ouais, vous voyez, la trace continue.
Progressez, progressez, progressez. Vous voyez une personne là-bas.
Là-bas en blanc?
Oui, oui. C'est une personne.
Oui, c'est une personne.
Il est en train de couper le bois.
Oui, oui, oui. Alors, écoutez sa machette.
Go, go, go! Hé, viens là! C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée.
Oh, yes!
Vladimir Cagnolari. Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Alors, je sais pas comment s'est passé votre week-end à vous, mais franchement, à Paris, c'était festival de la pluie. On se serait cru en forêt tropicale, mais avec la chaleur en moins, évidemment. Alors, tant qu'à être mouillé, je vous propose aujourd'hui de nous enfoncer dans une profonde forêt équatoriale qui fait, vous savez, cette forêt équatoriale qui fait une grande ceinture verte au continent africain. Un domaine tellement fertile que quand on crache un noyau, hop, un arbre pousse. Alors, à vos cartes, à vos noyaux aussi, nous progressons lentement, lentement à pas de léopard, dans l'insondable et immense forêt d'Afrique. Et comme tous les jours, pour nous accompagner dans ce périple musical, j'ai la chance d'être assis en face d'un initié au secret de la brousse, un spécialiste des essences non polluantes, le roi de la jungle urbaine, Soro Soro. Bonjour Solo.
Bonjour Vlad.
Ça va?
On fait aller.
Bon, Solo, j'ai pas menti, t'es quand même plus jungle urbaine que jungle.
Tout à fait, le fait d'être né en ville, je suis donc jungle urbaine. Mais pour moi, c'est toujours une jungle, la ville, parce qu'on a exactement les mêmes pièges. En tout cas, je pense aux raquettes des policiers sur la voie publique. Ici, ce sont les radars. Ça vous arrache des euros. Je pense à la violence urbaine comme la violence de la jungle. Et je pense par exemple aux loubars, tu vois, ces gros blagues qui sont agressifs.
Les gros bras, là.
Voilà, et qui t'arrachent ton porte-monnaie si jamais tu ne le donnes pas de gré. Bref, il y a également tous les dangers de la jungle en ville. Par exemple, les accidents de la circulation. Tout ça, réuni, ça fait que la ville, comme la forêt, tout ça, c'est la jungle.
Bon, aujourd'hui, on va s'enfoncer dans la vraie, vraie jungle. Donc, à vos machettes, à vos anti-moustiques, ouvrez bien l'œil et l'oreille, on y va.
Vas-y, Vlad, tu passes devant.
Comment ça d'abord? Ben non, à toi l'honneur, c'est toi l'aîné.
Mais non, c'est vrai, je suis l'aîné. Mais toi, tu es le Casagourou.
C'est quoi encore?
Le Casagourou. Bon, chez nous, on sait très bien que dans la forêt, il pleut tout le temps. Mm-hmm. Et les pistes et les chemins, les herbes, les feuilles, ça déborde sur la piste. Et ça a toujours la rosée sur les herbes et les feuilles. Mm-hmm. Eh bien, on met le plus jeune devant. Et lui, quand il passe avec ses petites jambes bien vigoureuses, bah, il secoue toutes ses plantes, la rosée tombe. Et quand le vieux père y passe, il n'a plus les jambes mouillées. À toi de passer devant.
Le vieux père est trop fort.
Ça, c'est Betty de la Camerounaise Salignolo. elle est bien, sur France Inter.
Ouais, la chanson s'appelle Betty, et les Betty, justement, c'est le nom de ce peuple qui fait partie de la grande famille des peuples Fang. Les Fang sont des peuples qui ont des langues voisines, et aussi pas mal de traits culturels en commun. Et ils vivent dans le sud du Cameroun, dans le nord-est du Congo, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, et presque tout le nord du Gabon.
Et cette chanson, en fait, c'est un hommage au peuple Betty et qui connaît les secrets de la forêt comme la paume de sa main. Mmh. Et le conteur camerounais Binda Ngazolo, il est Betty aussi. Et les contes qu'il compose sont souvent tirés du répertoire traditionnel de ce peuple, mais bien entendu transposés en ville. Et tout à l'heure, on écoutera l'un de ces contes croustillants.
Et les Betty, dont on parle justement, c'est souvent les agriculteurs, mais ils vivent toujours dans une région de forêt. Et c'est une forêt qu'ils défrichent pour faire des plantations de manioc, de maïs, de café ou de cacao, mais aussi de bananes, de safou, qui sont ces espèces de fruits qui poussent sur les arbres. Mmh. Ça ressemble à des prunes, d'ailleurs souvent même on les appelle des prunes. Mmh. En fait, c'est pas sucré. La chair à l'intérieur est verte et très souvent on les fait chauffer, tu sais, comme on ferait griller du maïs comme ça, et c'est super bon et c'est très très nourrissant. En tout cas, c'est en forêt chez les Betty qu'on se rend pour aller au champ, mais aussi au cours d'eau, bien récupérer du bois pour le feu, etc., etc. Et c'était comme ça, par exemple, dans le petit village d'Eyen Meyong où la chanteuse Saline Yolo, qu'on vient d'entendre, a passé son enfance.
Effectivement, je suis née dans la forêt. Du centre-sud, d'une région au milieu de la forêt. Et habiter dans la forêt, c'est effectivement, on se sent, il y a cette impression de sécurité et d'insécurité. La sécurité, c'est que tout est calme, paisiblement, en apparence, comme la forêt peut être. Et quand on commence à regarder dans les détails, tout est vivant, il n'y a rien de calme, tout bouge, tout vit, et c'est extraordinaire. Et enfant, c'était un problème magnifique pour moi. On ne pouvait pas m'envoyer faire quelque chose sans que je mette des heures et des heures à revenir ou à y aller. Parce que sur mon chemin, il y avait toujours des tonnes. C'était pas du danger, c'était... des choses inattendues. Je ne m'attendais jamais à croiser telle chose sur mon chemin, en allant chercher de l'eau, ou en allant voir ma grand-mère un petit peu plus loin dans la forêt, ou en allant au champ. C'était toujours une grande épopée de sortir de la maison de mes parents toute seule.
C'était quoi ces imprévus, par exemple ?
Eh bien, ça pouvait être une pluie qui était tombée juste avant, donc a changé complètement le chemin. Le chemin que je connaissais de la veille, impeccable, bien dessiné, je pouvais même y marcher les yeux fermés. Là, subitement, j'étais obligée de faire attention, je ne pouvais plus y passer. Ou alors, il y a eu une invasion de chenilles après la pluie, des chenilles multicolores, mais aux yeux des enfants, tout est merveilleux et tout est un peu inquiétant. Donc, je vais m'arrêter, observer ces milliers de chenilles et me dire... Est-ce que je peux vraiment passer, poser mes pieds là? Est-ce que je ne vais pas avoir de problème? Donc, tout est, à chaque moment de la vie, est toujours imprévisible. Il y a toujours quelque chose d'imprévu quand on vit dans la forêt. Et on apprend à savoir, on apprend à gérer ces situations imprévisibles. Et on apprend à vivre avec l'imprévu aussi. J'ai appris à écouter cette nature, à me fondre même quelquefois, à me mélanger à elle. Je me rappelle les cueillettes de miel avec mon père. La nuit, il ne s'agissait pas de prendre seulement le miel. Il ne fallait pas tuer les abeilles non plus, parce qu'il fallait qu'elles refassent le miel. Donc il fallait juste les étourdir un petit peu, les endormir de telle façon qu'elles ne nous piquent pas au moment où on prenait les galettes de miel. Mon père le faisait très bien. Il y a des plantes dans la forêt. Une fois qu'on se badigeonne de leur sucre, de leur essence, bien les abeilles ne vous embêtent pas trop, elles n'aiment pas trop cette odeur-là. Et avec une petite fumée pour un petit peu les étourdir, vous tenez une petite fumée à bout de bras sous une torche ou quelque chose qui fume, bien badigeonné, bien on peut aller dans n'importe quel... Enfin, là-bas, dans la forêt, dans n'importe quel arbre où il y a du miel et des abeilles, et prendre quelques galettes sans trop se faire piquer. Et bien, on apprend ça. On apprend donc à écouter cette nuit, à écouter cette nature, à écouter ces arbres, à écouter tous ces sons qui font partie de cet univers. Finalement, pas du tout hostile quand on peut vivre, quand on peut l'écouter, quand on arrive à identifier ce qui est nouveau et ce qui fait partie, entre guillemets, du décor. Et moi, au jour d'aujourd'hui, ma musique, le rythme Bikutsi, que je me suis inspirée pour composer tous mes albums, et bien sort de cette forêt, vraiment. J'ai l'impression, quand je joue mes riffs de guitare, que je tape sur les écorces des arbres, les grandes racines des baobabs dans la forêt, comme je le faisais enfant. L'onkoul, pour moi, c'est le tambour d'appel. C'est un tambour d'appel. L'onkoul, c'est le premier portable là-bas. Bien, ça va tout de suite chercher dans mes souvenirs d'enfance l'ovet, la guitare traditionnelle sur laquelle on chantait les épopées à l'époque du Bikutsi. Eh bien, aujourd'hui, l'ovet, quand je l'écoute, je suis plongée dans le bruissement que font les feuilles des arbres traversées par quelques vents. Quand l'ovet joue, pour moi, la résonance dans les calebasses, après qu'on ait entendu l'attaque des cordes, la résonance du son du ovet dans les calebasses, c'est le son que font les feuilles des arbres de la forêt caressées par le vent, au passage du vent. D'autres sons comme ça, le son de la langue elle-même, la langue étonne, et c'est comme les picotements des becs d'oiseaux sur les branches, ça, c'est pareil, c'est le même son quand on parle la langue, c'est entre le guttural et le nasillard, et ça sonne comme le bois, en fait. Effectivement, tout mon travail d'artiste aujourd'hui est influencé par le fait que je sois née dans une forêt africaine.
Salut Niolo, sur France Inter, et c'est ce que nous expliquait Binda l'autre jour, hein, Vlad, tu te rappelles, quand il disait que les croyances religieuses traditionnelles étaient influencées et par le milieu naturel et qui leur avait donné leur une sorte de légitimité ou de leur naissance en quelque sorte. Mmh. Et c'est pareil pour la musique ou la langue qui elle-même est musique, Salim Niolo vient de nous le dire.
Et justement, parmi les peuples qui vivent dans la forêt, donc il y a les Béti, et en tout cas parmi les peuples dont la culture est façonnée par l'environnement, il y a les fameux pygmées. Alors les pygmées, c'est pas un seul peuple, mais plusieurs qui ont en commun le fait de vivre dans ces forêts, de vivre de la forêt et avec cette forêt.
Et les pygmées qui vivent par petits groupes étaient autrefois des nomades à l'intérieur de la forêt. Ils se déplaçaient en vivant de cueillettes, de fruits sauvages ou de miel, comme disait tantôt Salignolo, et aussi de la chasse. Mais tenez-vous bien, ils chassaient le gros gibier avec des sagaies, s'il vous plaît. Tu te rends compte, un éléphant, par exemple, le chasser avec une lance, il faut le faire.
Est-ce que c'est petit?
C'est pas petit. Et un grand n'est pas un petit. Et sous la pression des peuples d'agriculteurs qui se sont, qui ont bougé sur le continent pour venir s'installer à proximité des forêts, pour bien entendu les défricher, ils ont commencé, je veux dire, les Pygmées ont commencé à échanger et à s'acculturer aux nouvelles coutumes des sédentaires.
Ou alors, justement, sous la pression des autres peuples, ils avaient parfois tendance à s'enfoncer dans la forêt de plus en plus loin pour conserver leur mode de vie. Et très souvent, et aujourd'hui encore, ils sont l'objet de moqueries, de quolibets de la part des autres populations qui, elles, sont des populations agricoles. En tout cas, toujours des sédentaires. Et on se moque des pygmées, on se fout d'eux, et voire on les considère comme des sauvages ou des sous-hommes.
Je crois que cette attitude condescendante vis-à-vis des pygmées, c'est certainement dû au fait qu'ils sont de petite taille. Mm-hmm. Et puis qu'ils sont partiellement dévêtus, sont pas totalement habillés. Et ça fait que les autres peuples, à cause de ces différents éléments, ils se moquent d'eux. Et je pense qu'ils sont également victimes d'une sorte de racisme profond à cause de, bon, non seulement de cette petite taille, mais le fait aussi de ne pas avoir de bétail. Et tout ça fait que les peuples de grande taille, qui sont sédentaires, qui ont du bétail, les considèrent un peu comme des sous-hommes, quoi.
Et c'est justement pour leur rendre justice que le Camerounais Daniel Wood a enregistré la chanson qui suit. Elle s'appelle tout simplement Pygmée.
pygmée n'a jamais voulu guerroyer. Chez les pygmées, y'a pas de MST. Car chez les pygmées, c'est la fidélité. Je suis pygmée et je reste pygmée.
Cette voix, c'était Pygmée du Camerounais Denis Elwood et qui est tout à fait très bien sur France Inter.
Ouais, justement, ce que vous entendez, que faisait Denis Elwood dans sa chanson, les yeah, c'est justement une reprise de ce que vous entendez derrière nous, c'est-à-dire cette façon dont chantent les Pygmées et que les Occidentaux découvrent ça. Vous savez, comme on a tendance à donner des noms en référence à nos propres critères, et ben on a appelé ça le yodel. Le yodel, exactement comme, vous savez, cette façon de chanter qui fait la marque de fabrique des montagnards autrichiens ou des Suisses alémaniques. Et donc, c'est vrai que ça, par exemple, ce qu'on entend là, c'est un chant qui vient de la grande forêt équatoriale, du Gabon, en particulier chez les pygmées bibayak. Alors, c'est vrai que... selon, on a parlé un petit peu de l'adaptation, de la symbiose, même des pygmées avec leur environnement. Sauf que ce mode de vie, il est en train peu à peu de disparaître.
Et
enfin, s'il n'a pas complètement disparu.
J'ai même l'impression qu'il a pratiquement disparu, mais parce que les pygmées s'adaptant aux populations qui sont venues s'installer en bordure des forêts, ces pygmées aussi ont intégré leur mode de vie et leur mode d'habitat. Ils ont construit des villages, eux aussi, je veux parler des pygmées, sur les bords des routes. Ils sont devenus agriculteurs ou éleveurs sédentaires, et ce qui a impliqué forcément des changements complètement dans leur mode de vie et même dans leurs croyances. Et ça fait que aujourd'hui, malgré cette adaptation au nouveau mode de vie, les pygmées ont quand même du mal à se convertir à la modernité. Et on constate que c'est le peuple le moins scolarisé. Et ça fait qu'ils sont une espèce de compromis, mais qui les détruit petit à petit, de la même façon que leurs forêts sont grignotées pour les besoins de l'exploitation du bois.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent plus vraiment vivre leur mode de vie traditionnel comme autrefois. Et à la fois, ils ont pas du tout intégré les critères de la modernité où ils sont des laissés pour compte. Il y en a pas mal d'ailleurs qui finissent dans l'alcoolisme. Daniel Wood disait que les MST touchaient pas les pygmées. Bon, je pense qu'il était un petit peu idéaliste parce que justement, comme ils ont aucune information là-dessus, faute d'alphabétisation et consorts, trouve-t-il que du coup, bah, même les MST, le sida en particulier, touche les pygmées. En tout cas, leur technique musicale, qu'elle soit faite de voix qui chantent en yodel, comme vous entendez, ou bien alors d'apô ou de sifflets qu'on taille dans divers bois de la forêt. D'ailleurs, les... Voilà, dans ce genre-là, en tout cas. D'ailleurs, les pygmées, en général, ils construisent eux-mêmes leurs instruments, c'est-à-dire qu'ils ne les gardent pas avec eux. Ils débarquent dans un coin, puisqu'ils changent de lieu. Traditionnellement, en tout cas, ils faisaient ça. Et puis, quand ils arrivent quelque part, eh ben, ils coupent un morceau de bois, et c'est là qu'ils saillent les instruments du moment. Et puis après, quand ils partent, ils les laissent sur place. Parce que tout ce qu'ils font, en général, justement, est biodégradable. En tout cas, que ce soit avec les voix ou avec les sifflets, les apôts, ils ont toujours cette technique de polyphonie, c'est-à-dire que les voix, comment dire, s'entremêlent de manière à la fois très très complexe et c'est très savant, quoi. Et c'est même tellement savant que les Américains, figure-toi,
comme d'habitude,
s'en sont inspirés.
Youhou!
vous n'y êtes pas. On n'est pas dans la forêt équatoriale d'Afrique. On est bien au cœur de l'Amérique. C'est un extrait de Watermelon Man du noir américain Herbie Hancock. Et c'est vrai que ça a de faux airs de polyphonie pygmée.
Ouais, avec le côté funky en plus, façon Starsky Hutch. On se disait l'autre jour en écoutant ça que ça serait intéressant d'imaginer nos deux inspecteurs dans une enquête chez les pygmées. Alors, Solo, toi tu fais Starsky, moi je fais Hutch. T'es prêt?
Yes, Hutch.
Ok, papa Starsky, on a garé notre super voiture rouge à bande blanche à l'entrée de la forêt et on progresse à pied. Et notre réalisateur, Coy alias Huggy Les Bons Tuyaux, a trouvé des pisteurs pour nous accompagner jusqu'à un campement pygmée.
Vous êtes prêts? Tout de suite, nous allons en patrouille. Faut bien observer en marchant. Départ. Marchez lentement en écoutant. Ce que vous voyez, ça c'est une trace. Marchons lentement, lentement.
Là-bas en blanc.
Oui, oui. C'est une personne.
C'est une personne.
Il est en train de couper le bois.
Oui, oui, oui. Couper sa machette.
Et avec Starsky et les pisteurs, on vient d'arriver à proximité d'un campement pygmée. C'est un peu gênant parce qu'on tombe en pleine scène de ménage. Monsieur est fâché et ça sent fort le divorce pygmée.
J'ai constaté que tu ne me dis plus tous les mots que tu avais l'habitude de me dire autrefois, lorsque tu voulais que je t'épouse. À ce moment-là, tu m'aimais, n'est-ce pas? Et tu me disais que j'étais le plus grand de tous les pygmées, que les autres n'étaient rien à côté de moi. Tu t'en souviens? Et moi, je me suis laissé faire. Je t'ai épousé sans même regarder derrière. Et maintenant, je suis triste. Parce que tu ne me dis plus tes flatteries de bonne femme d'autrefois. Dis donc, mais pourquoi tu me rends triste comme ça? Hein? Dis-moi un peu. Fais ça pour que je commence à te prier. Et pour que je commence à crier la tristesse dans toute la forêt. Et pour que tous les autres pygmées commencent à se moquer de moi. Ils vont se mettre à parcourir tous les sentiers en riant aux éclats comme des marmites de viande d'éléphant en train de bouillir. Yeah, yeah. Dans toute la forêt, il y a chez eux un homme qui pleure à cause d'une femme. Tu sais, tu me rends très triste. Hein? Je te le répète, tu me rends très triste. Trop triste même. Mais pourquoi fais-tu ça? Pour toi, je suis allé à la chasse tous les jours, tous les jours. J'ai ramené le meilleur gibier de toute la tribu. Tu es témoin puisque tu l'as mangé toi-même. Regarde-toi, quand je t'ai épousé, tu étais toute mince, comme du fil pour attacher un piège. Tu as mangé tout le gibier que j'ai abattu. Et maintenant tu es grasse comme une vraie femme. Regarde-toi, tes biceps, est-ce que tu les reconnais? Et même ton derrière, lui s'est amélioré, hein? Est-ce que tu le vois seulement? Maintenant tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi. Tu veux t'en aller, mais t'en aller où même? Chez tes parents? Yeah. que tu es la fille du chef. Et si tu retournes chez ton père, est-ce qu'il pourra me rendre tous les cadeaux que je lui ai offerts pour t'épouser? Je lui ai donné 8 grosses défenses d'éléphant qu'il a déjà vendu au grand noir du village là-bas, loin de notre forêt. Le sel et le tabac qu'il a eu pour ça, il a déjà tout consommé. Et maintenant, il est vieux. Avec quelle force va-t-il abattre les éléphants pour me rendre mes défenses? Dis-moi. Que tu as trouvé un autre homme plus jeune que moi. Ah, je comprends maintenant. Et c'est cet homme-là qui va me rendre mes 8 défenses d'éléphant, n'est-ce pas? Alors, dans ces conditions, si tu veux t'en aller, mais va-t'en donc. Hein? Va-t'en. Je te répète que dans ces conditions, si tu veux t'en aller, il faut t'en aller. Va-t'en. Mais va-t'en donc. Moi j'en ai marre de la tristesse que tu me donnes chaque jour. Tu me fais manger de la tristesse. De la tristesse, j'en ai trop mangé. Si tu veux t'en aller, va-t'en. Va-t'en vite. Je te dis, il faut quitter chez moi. Vite, vite, hein. Il faut partir. Va-t'en. Va-t'en, il faut partir. Tu es une mauvaise femme. Va-t'en. Je ne veux plus te voir ici, hein. Va-t'en, je te répète, il faut partir.
Là, vous venez de voir avec vos oreilles, pour reprendre un terme de notre conteur Binda, vous venez donc de voir avec vos oreilles un divorce pygmé, une chanson qui a été écrite par le Camerounais Francis Bébé, c'est bien sur France Inter.
Solo, que ce soit les pygmées ou bien les autres populations qui vivent à proximité des forêts, en tout cas, la forêt, c'est toujours là où les guérisseurs ou les sorciers trouvent leurs plantes médicinales ou magiques.
La forêt donne tout. En tout cas, pour tout ce qui est médicinal, par exemple, la sève des racines ou de certaines lianes, elles servent à soigner les maux d'yeux. Et les décoctions de feuilles, d'écorces ou de racines, ce sont tout ça fourni, les sédatifs, les désinfectants ou les pansements. Bref, la forêt nourrit, soigne et est un puissant bouclier protecteur contre l'ennemi envahisseur, par exemple.
Oui, parce qu'on fabrique même aussi, en tout cas, pour compléter un peu ce que je disais, des vêtements grâce aux écorces des arbres et bien sûr aux peaux des bêtes qu'on chasse. Mais en tout cas, à part peut-être pour les pygmées qui, eux, sont les plus initiés au mystère de la forêt, pour la plupart des autres populations, la forêt, c'est toujours un lieu de mystère. C'est un peu le cas, d'ailleurs, toujours ici. Hein. Rappelez-vous la forêt de Brocéliande ou encore dans Astérix, les réunions des druides dans la forêt des Carnutes. La forêt, c'est le lieu du mystère. Quoi.
Mais je pense que la forêt restera toujours un mystère à cause de son gigantisme, les grands arbres, à cause de son côté impénétrable. Et même les bruits dont parlait Saline Niolo de la forêt. Par exemple, chez nous, il y a un petit oiseau qu'on appelle le woya. Quand il hurle dans la nuit, tu croirais qu'il y a un tremblement de terre. Ouais,
ouais. Bref. Ça a fait tremblement dans mes oreilles. Ouais.
Tous ces bruits de la forêt, ça lui confère un côté mystique, un côté sacré. Et ce qui fait dire aux hommes qu'il y a la forêt remplie de génies, parce qu'ils ont du mal à s'expliquer ces cris qu'ils peuvent entendre, le bruissement des feuilles, des insectes, et bref. Et même la nuit, les arbres, les branches, ça prend des formes humaines, tu as l'impression que ça bouge. Et c'est pour ça que les différentes populations ont souvent choisi, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique occidentale que je connais le mieux, des endroits dans la forêt pour en faire des lieux sacrés. Et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a cette fameuse forêt des Tailles. C'est une forêt primaire de 450 000 hectares et qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Une forêt que connaît bien la plasticienne Kaïdine Le Roller et qui, en 1999, a réalisé une série d'installations au cœur de la forêt des Tailles, une forêt dominée par une mystérieuse montagne.
Le mont Nienoukoui, justement, cette montagne quasiment sacrée de la forêt de Taille, et c'était autrefois un village et une femme protégeait ce village. Et les habitants de ce village n'ont pas été très gentils avec elle, ils l'ont un peu exclue, et pour se venger, elle a transformé ce village en montagne. Ce village est solidifié, devenu une montagne. C'est un peu la légende qui existe. Et il ne resterait sur le dessus de cette montagne qu'un peu de cette forêt sacrée dans laquelle on ne peut absolument pas pénétrer. C'est le mont Nyenokwe qui domine la forêt de taille de 300 mètres. Et on voit toute la canopée, on voit toute la forêt de taille lorsque l'on monte sur ce mont Nyenokwe. En fait, les pentes de cette montagne sont très glissantes. C'est comme un énorme gros rocher, en fait, au sommet duquel il y a encore une forêt primaire. Il y a une panthère aussi. On dit qu'il y a une panthère redoutable. Donc, il y a toute une légende. Et ma foi, les personnes qui vont dans la forêt de Thaï n'ont pas tellement envie d'aller plus haut, d'aller sur cette montagne. Ils en ont peur.
La forêt tropicale et ses mystères ont donné naissance à de nombreuses chansons, comme celle par exemple du Gabonais Pierre Akavengé, qui s'appelle « De la forêt ».
Mbenga était un grand ingénieur de travaux sorti d'une grande école occidentale. C'était un intellectuel africain extrêmement brillant. Tellement brillant d'ailleurs que parfois, il s'éblouissait lui-même au point de plonger dans une profonde cécité intellectuelle. Rentré au pays, il s'était vu confier un chantier exaltant qui consistait à transformer en quartier résidentiel chic la dernière forêt sacrée, le dernier réservoir d'oxygène qui se trouvait en plein centre-ville au beau milieu d'un quartier populaire. Des histoires étranges circulaient à propos de cette forêt. On disait qu'il s'y passait des choses pas catholiques du tout. On racontait que même les colons n'avaient pas réussi à en avoir raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était restée plantée là. Mais
Mais Banga, lui, n'en avait rien à cirer. Ah oui, ce n'était pas le genre d'intellectuel africain qui croit aux sornettes, vous savez, les histoires de fétichisme, d'animisme et tous les autres ismes. Lui, il était chrétien et cartésien, comme quoi ceci n'empêche pas cela. Alors un jour, il descend sur la forêt avec un escadron de bulldozers. En un tour de main, il rase la forêt. Il rentre chez lui, fier du devoir accompli. Le lendemain matin, il prend sa Mercedes dernier cri et se dirige donc vers le chantier. Mais arrivé sur le lieu, un spectacle totalement hallucinant se présentait à ses yeux. La forêt qu'il avait rasée la veille, le narguait là, comme si aucun pied sacrilège d'être humain n'avait jamais foulé son sol. Fou de colère, Mbanga balance un coup de pied sur un arbre qui se trouvait devant lui. Une douleur bien réelle lui rappelle que l'arbre en question n'est absolument pas virtuel. Là, il décide de nouveau de raser la forêt. En un tour de main, la forêt est rasée. Et il décide automatiquement de passer la nuit là, pour éclaircir ce mystère. La nuit tombe. Mbanga se glisse dans son sac de couchage et s'endort. Mais à minuit, une étrange chanson entre dans ses oreilles. Voici le nom Bango avant ma vang, abagasi abgenye no avant ma vang. Il est zogzi tam tebena, abagasi abge abak. Pour ceux qui ne comprennent pas Betty, la chanson disait: Mbanga, ne me provoque pas. Toi, arbre couché, redresse-toi. Et l'arbre de se redresser comme par enchantement.
Akia!
Il se passait des choses dans cette forêt. Oui, Mbanga sort de son sac de couchage, jette un œil à l'extérieur tout en gardant l'autre à l'intérieur. On ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un oiseau perché sur un arbre couché. Il se jette sur l'oiseau, mais l'oiseau ne s'envole absolument pas. Il lui tord le cou, jette le corps de l'oiseau par terre. Mais le cadavre de l'oiseau chante.
Ne me tue pas comme ça, ne me tue pas comme ça. Écoute la vie est venue me chercher dans mon nid. Oh, la vie, ta vie c'est ma vie, ma vie c'est ta vie. Zoamiangle.
Mbanga lui dit, attends, quand je vais te manger, je vais voir si tu vas chanter encore. Mbanga plume l'oiseau, dépèce l'oiseau, fait cuire l'oiseau et mange l'oiseau entièrement. Il se glisse dans son sac de couchage et s'endort pour l'éternité. Comme quoi, qui aime la vie ne sème pas la mort.
Voilà, c'était notre conteur maison, vous l'aurez sans doute reconnu, Bindan Gazolo, lui aussi Betty du Cameroun, donc il connaît bien la forêt. Solo, son conte, le conte que vous venez d'entendre de Binda, la forêt sacrée dans la ville, c'est vrai que dans pas mal de grandes villes africaines, on trouve encore des espèces d'endroits préservés où il y a des morceaux, enfin il y a des bois ou des forêts, quoi.
En tout cas, aujourd'hui, en 2006, tu peux aller, enfin, chers auditeurs, vous pouvez aller dans mon village à Korogo, il y a au cœur de la ville.
Ton village, ce que tu appelles ton village, enfin, c'est quand même une ville assez importante.
Oui, hein. Ma ville, de près de 200 000 habitants, au cœur de la ville, un bois sacré où on continue de pratiquer des rituels d'initiation et de danse sacrée. Et toujours en Côte d'Ivoire, sur le littoral, on a cette première capitale, la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Bassam. Il y a également un bois sacré qui continue de fonctionner normalement. Là-bas, chez nous, on n'est pas comme M. Mbanga, où on tente de raser les forêts sacrées.
Et cette sensation de sacré, qu'on peut retrouver dans les forêts africaines, qu'elles soient de la ville ou bien les forêts de la forêt, si on peut dire, même les blancs, ils sont sensibles.
Ah, et moi, je constate même que, en tout cas, j'ai vu des exemples de blancs qui ne se contente pas simplement d'être sensible, mais d'intégrer, je veux dire, cette culture du sacré. J'ai vu un Allemand s'initier au rituel sacré en Côte d'Ivoire, en pays sénoufaux. Et j'ai vu le travail de la plasticienne française Monique Kaïdine-Le Weller, qui vient en Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années. Et la majorité de ses installations s'inspirent du sacré. Et dans Forêt sacrée, ce credo, le dernier ouvrage qui présente les œuvres de Kaïdine Monique Le Weller et qu'elle a réalisé dans la forêt de Taï en Côte d'Ivoire, et dont les photos sont de Vincent Fougère et les textes de Alain Borer, elle a une installation emblématique. C'est un pied de tronc d'arbre qui est creux, le tronc est renversé, et là-dessus, elle a placé dans le creux un crâne d'antilope de forêt, une dent d'hippopotame et des escargots et même des graines. Des graines de palmier peut-être. puis elle a encerclé le tronc d'arbres de fibres végétales de couleur jaune et mauve et qui tombent du tronc d'arbre comme des lianes. Et celle-ci, je veux dire, puis ce tronc d'arbre est encerclé de ces éléments-là avec ces fibres qui sont elles-mêmes traversées par une sorte de fruit en forme d'escargot géant. Et ça te donne, ça te renvoie forcément au sacré.
Bien déjà, j'ai eu cette sensation de sacré en vivant en Afrique, en parcourant, en allant beaucoup dans les villages, notamment en pays Sénoufo, en pays Lobi, en voyageant énormément. Je me suis rendu compte que les Africains sont très près, ont le sacré en permanence dans leur vie. Tout est sacré, la nature est très importante et il y a souvent des autels, justement, honorant la nature, honorant, oui, exactement, la nature, ou des gens, la forêt. Donc, lorsque les guides m'ont amené à cette souche, ce sont les guides eux-mêmes qui m'ont amené à cette souche en me disant « tu vas faire quelque chose là ». Ce sont eux qui m'ont indiqué ce lieu précis. Et ils m'ont prêté, donc, pour faire cette œuvre, le crâne d'antilope, la dent de phacochère, enfin, les différents éléments que l'on voit sur la photo. Donc, j'ai travaillé. Et lorsque j'ai terminé cette œuvre, ils m'ont dit « tu as fait Dodo Manima ». Ben, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, Dodo Manima ? Eh bien, c'est le fétiche pour protéger la forêt. Donc, il m'avait donné les éléments pour que je réalise cette œuvre qui avait un rapport sacré avec la forêt.
Mais pourquoi ils ressentent ce besoin de protéger la forêt jusqu'à vous amener à créer un fétiche pour protéger la forêt ?
Parce que cette forêt, comme toutes les forêts en Côte d'Ivoire, malgré la protection, elles sont quelquefois quand même saccagées. Elles sont saccagées, elles sont, par exemple, il existait 7 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire, il n'en reste plus que 1 million d'hectares de forêt. Donc ces guides sont là pour protéger ces arbres, cette nature qui est en train de disparaître, qui est en train de devenir, on voit des sacs de charbon sur le bord des routes en Côte d'Ivoire, la forêt devient du charbon. Donc pour eux, c'était un acte aussi, il fallait que je fasse quelque chose. Il me dit comme ça, les gens verront ce fétiche.
Et là, vous avez entendu Monique Leroleur d'Ikaïdine qui expose en ce moment à Paris. Elle présente une série d'installations baptisées « Nomades de l'âme » et c'est à l'Orangerie du Sénat dans les jardins du Luxembourg jusqu'au 20 août.
L'Afrique enchantée, oh. L'Afrique enchantée, oh. C'est l'émission où l'Afrique se raconte en chantant.
Personne là-bas.
Là-bas en blanc ?
Oui, oui. Il est en train de couper le bois.
Oui, oui, oui.
Progresser là, devant. Tu comprends ? Oui. Va le prendre tout de suite. Voilà.
Toi, qu'est-ce que tu as dans la main ?
C'est une machette, c'est une machette, c'est une machette.
Mettez par terre, mettez votre machette par terre.
Ah, excusez, excusez. On est roumé, on est roumé.
Non, je dis, mettez votre machette par terre.
On est roumé, on est roumé, papa, on est roumé.
Alors voilà, ça c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est un braconnier qui vient de se faire arrêter par deux gardes forestiers du parc des Virunga, c'est dans le nord-est de la République démocratique du Congo. En fait, même le braconnier, c'est aussi un garde forestier, mais il joue les braconniers quand il y a besoin de faire des exercices. Et là, faut quand même avouer que les gardes qu'a rencontré Ziad Mahalouf en République du Congo sont aussi des très bons comédiens. Et parce que les forêts de l'est de la République démocratique du Congo, elles n'ont pas échappé aux guerres à répétition depuis 10 ans qui ont secoué le pays. Elles ont tué des tas de gens, dont des pygmées. Et les bandes armées continuent de se livrer au pillage des ressources naturelles qu'on trouve là-bas, que ce soit l'ivoire, les minerais, ou bien tout simplement le bois. Et c'est vrai que, Kaïdine Louvaleur en parlait tout à l'heure, la déforestation, c'est une plaie qui frappe durement le continent, puisque d'après la FAO, l'Afrique serait le continent qui aurait subi les plus grandes pertes depuis 15 ans, avec 64 millions d'hectares en moins. Donc la principale cause, c'est ce qu'on vient de dire, mais aussi de l'agriculture, et notamment l'agriculture surbrûlée.
Par exemple, je vois les populations qui n'ont pas les outils modernes pour labourer la terre. Et avant les cultures, Allez, on brûle tout. On met le feu à la nature, hop, ça brûle tout. Et quand c'est dans une forêt, ben c'est tout un pan de forêt qui est complètement et totalement brûlé.
Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours mesurer jusqu'où le feu va s'étendre et que du coup, ça déborde énormément et que ça brûle des tas et des tas de terres qui ont bien du mal après à se régénérer puisque sur le moment, ça fertilise les sols. Mais après, évidemment, pour que tout ça se reconstitue, ça prend des années et des années. Solo, je vais te proposer, juste avant qu'on se quitte, qu'on finisse notre parcours avec les gardes forestiers du Congo, puisqu'ils viennent d'attraper un braconnier. Voilà.
Toi, qu'est-ce que tu as dans la main ?
C'est une machette.
Mettez par terre. Mettez votre machette par terre.
Ah, excusez. On est roumé.
Non, je dis, mettez votre machette par terre.
On est roumé, papa.
Mettez votre machette par terre.
Mets la couille, papa. Mets la couille, papa. Mets la couille.
Tu as mis ça par terre ?
Mets-y à chine, papa.
Alors, venez, suive-moi.
Mets la couille, papa.
Garde, va prendre cette machette.
À vos ordres.
Acheminons ce braconnier à la station. Passe devant. Merci.
Pendant que le braconnier est acheminé à la station, Solo, tu voulais ajouter deux mots sur une technique, je crois, traditionnelle de conservation de la forêt qu'avaient les gens autrefois en Angola.
En Angola, pas puisqu'on a parlé du brûlis, mais il y a des populations qui ont dans leur pratique traditionnelle un mode de fonctionnement pour protéger cette forêt dont ils sont conscients qu'elle n'est pas éternelle. Et en Angola, on confie à chaque grande famille une parcelle de forêt. Un arbre qui vieillit, un arbre qu'on abat, il est automatiquement remplacé par un autre arbre qu'on plante à cet endroit. Et cette pratique s'appelle chez les Angolais de Lulendo, l'artiste musicien, ça s'appelle le zombo.
Bon, Solo, je crois que là, il faut qu'on y aille absolument. On va rejoindre nos
gardes de chasse. On aimerait s'attarder un peu plus, hein.
Ah, comme toujours. Bon, en tout cas, il faut bien qu'on remercie toute la patrouille.
Hey, demandons la route aux auditeurs d'abord. Pardon, accordez-nous, donnez-nous la route. On veut partir.
Donc, on part avec nous. Il y avait aussi Antoine Biosa, Ludovic Asselot à la technique, Koy, Coco Koy, Nguyen à la réalisation et notre ami assez attaché de production, Hortense Boll. Oh. Et dans toute une petite seconde, ça sera la publicité.
La nièce.
Le melon, c'est le goût des vacances dans votre assiette. En entrée ou en dessert, il est facile à préparer. Le melon, c'est la fête sur votre table en toute simplicité. Le melon, il est plein d'atouts santé. Peu de calories, beaucoup d'eau, de la vitamine C, des fibres. Les melons, c'est maintenant dans vos magasins et sur votre marché.
Vous êtes bien sur France Inter. Il est 15h, les informations avec Bilal Tarabé.
Il est 16h au Liban et selon le ministre de la Défense israélien Amir Peretz, le cessez-le-feu est respecté. Sur le terrain, la situation reste tendue. À la mi-journée, deux accrochages ont opposé l'armée israélienne à des hommes du Hezbollah. Dans les deux cas, Tsahal aurait tiré sur des membres du Hezbollah. L'armée israélienne ne sait pas si ces deux hommes sont morts. L'agence AFP affirme que les deux membres du Hezbollah ont été tués dans ces accrochages. En ce milieu d'après-midi donc, l'heure semble être déjà au bilan de cette guerre. Des représentants de l'armée israélienne, de l'ONU et de l'armée libanaise se seraient rencontrés à la frontière sud du Liban. Ils auraient discuté du retrait israélien et de l'application de la résolution 1701 votée vendredi. L'armée libanaise doit occuper le Liban.